La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Malik Khalab, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, membre du LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Il nous en a beaucoup parlé au cours de l'émission précédente, la semaine dernière. Et aujourd'hui, il va nous expliquer toutes les capacités de ces intelligences artificielles dont certaines n'étaient pas attendues. On n'imaginerait pas qu'une intelligence artificielle serait capable de faire tout ce qu'elle fait, en particulier des calculs ou autres travaux. Je vais donc poser la question tout de suite à Malik. Qu'est-ce que ces intelligences artificielles ont comme résultat qui n'était pas attendu? C'est des surprises, on a des surprises avec elles.
Oui, alors il faut voir, hein, comme je l'ai dit, que ça fonctionne sur le même principe que ces systèmes qui permettent de proposer des mots quand je tape un message sur un smartphone. Et donc on s'attendait à ce que ça soit relativement performant pour le traitement du langage naturel. Les performances dans le traitement du langage naturel ont de loin dépassé les attentes sur un certain nombre de tâches, telles que résumer un texte.
Ou écrire un poème, je crois. Oui, à partir, on donne un début de poème de Ronsard et l'intelligence artificielle écrit tout le poème de Ronsard, en invente un.
En invente un sur la base du style de Ronsard.
Voilà.
Ou de proposer des proverbes, ou de comprendre des proverbes, ou de produire un texte qui a un sens sur un sujet donné. Donc, les aptitudes au niveau langagier sont remarquables. Mais quelque chose qui n'était pas du tout attendu, parce que ce n'était pas du tout prévu dans la conception de ces systèmes, c'est qu'ils soient capables de faire du raisonnement logique. Il n'y a rien dans les algorithmes qui sont dedans qui permet de faire cela. Quelque chose qui permette de faire du calcul. Quelque chose qui permette de saisir le sens commun. Alors, quand je pose la question, je veux enfoncer un clou dans un mur, a priori, la machine n'a jamais eu l'expérience d'enfoncer un clou dans un mur. Elle ne sait pas quelle est la dureté du clou, le fait que je ne peux pas taper dessus avec ma main, etc. Mais il y a un sens commun qui lui permet de me dire « Non, tu ne peux pas l'enfoncer en appuyant avec la main. »
Et ce sens commun vient, en fait, d'un apprentissage du langage.
Il vient d'un apprentissage du langage, mais le langage en lui-même ne va pas me donner des statistiques sur les résultats de toutes les multiplications possibles et imaginables. Ou de toutes
donc,
les additions.
Tu lui donnes des équations à résoudre, comment ça se passe? Ou alors des problèmes à mettre en équation?
On lui donne des problèmes de mathématiques à résoudre et on trouve des solutions pour les systèmes les plus avancés qui sont du niveau d'un élève de terminale, d'un bon élève de terminale en mathématiques.
Et ça, elle va vite.
Bien sûr, elle va très vite la classe, ce n'est pas la vitesse qui est surprenante. Ce qui est surprenant, ce sont ces aptitudes qui n'étaient pas programmées, qui n'étaient pas attendues, qui sont un petit peu orthogonales à la statistique sur le langage. Se pose la question de comment les expliquer. Aujourd'hui, ni les concepteurs de ces systèmes, ni personne ne peut les expliquer de façon tout à fait satisfaisante. Nous sommes face à une situation où la technique est en avance sur la science. Nous pouvons faire plus que ce que nous comprenons. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des sciences que la technique est en avance sur la science. Par exemple, la machine à vapeur a existé 3 siècles avant Carnot qui nous a expliqué la thermodynamique et comment ça marche. Par exemple, le moteur électrique a existé 1 siècle avant Maxwell qui nous a expliqué l'électromagnétisme et comment ça marche. Aujourd'hui, nous avons des capacités dont nous devinons à peu près, mais nous ne comprenons pas de façon détaillée, de façon sûre, comment ça marche. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a un effet de seuil sur la quantité de calcul qui est faite.
C'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité d'informations au départ.
De puissance de calcul dans la machine. D'accord. Cette puissance de calcul se mesure en nombre de paramètres qu'il y a dans le modèle. Alors jusqu'à 1 milliard de ces paramètres, il ne se passe rien dans ces aptitudes surprenantes. Au-delà de 10 milliards et quelques centaines de milliards, c'est là où émergent ces aptitudes remarquables.
Une transition de phase, en quelque sorte.
Absolument. C'est une transition de phase. Donc, quand on regarde sur un ensemble de tâches relativement important, il ne se passe rien tant qu'on n'a que de l'ordre de quelques milliards de paramètres. Et dès qu'on a quelques dizaines ou centaines de milliards de paramètres, on a des performances qui commencent à être surprenantes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on a des hypothèses, et on essaie de les éclairer aujourd'hui, sur le fait que la machine a été capable de synthétiser d'une façon ou d'une autre, le bon algorithme pour faire ce calcul, pour faire cette tâche de planification, pour saisir, par exemple, comment se joue tel jeu ou comment s'effectue telle et telle tâche. Je n'ai pas besoin de le programmer spécifiquement, elle l'a saisi. Il faut quand même souligner que ces aptitudes sont remarquables, mais qu'elles sont aussi entachées d'erreurs. Je ne saurais pas prouver quoi que ce soit pour dire ça va marcher. Il y a des erreurs, on le sait aujourd'hui, et quelquefois la machine répond à côté, etc. C'est contrairement à l'autre classe de méthodes dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont des méthodes à base de données et de raisonnement, où je suis capable de prouver des résultats. Ah, je suis capable de démontrer qu'elle se trompera
pas. Là, pour la machine, ce n'est pas une preuve, c'est une probabilité extrêmement grande d'obtenir le bon résultat, mais c'est une probabilité. Voilà,
tout à fait.
C'est différent.
Oui. On a des réponses qui sont satisfaisantes le plus souvent et de temps en temps, on a des réponses qui ne le sont pas.
Donc en fait, elle peut faire par exemple des calculs extrêmement vite, beaucoup plus vite que nous, mais il faut quand même vérifier, nous, à la fin, qu'elle ne s'est pas trompée, c'est ça?
Oui, bon, pour le calcul, c'est pas le bon modèle, c'est pas avec ça, c'est pas en faisant des statistiques sur les résultats de calcul qu'on calcule bien.
C'est
on
vrai.
A d'autres modèles.
Oui, c'est vrai.
Et donc, la perspective, c'est quand même de marier ce type de méthode avec des méthodes qui sont plus précises et exactes. Hein, c'est aussi quelque chose que j'avais évoqué la dernière fois, c'est le lien entre des approches qui utilisent des connaissances et du raisonnement et des approches qui utilisent des données, des statistiques sur les données, qui font l'objet de nombreuses recherches. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui des observations empiriques et des explications qui sont plus ou moins approfondies et sur lesquelles on essaie d'avancer pour nous permettre de qualifier les réponses de ces systèmes. Les qualifier en disant, cette réponse, on en est certain, cette réponse est plutôt douteuse, ou cette réponse est probable ou n'est pas bonne, etc.
Donc, et quand on est certain ou pas certain, enfin, quand on a un résultat comme ça, on le lui dit à la machine, et comme ça, la fois suivante, elle marche mieux, c'est ça?
Pas nécessairement, parce qu'elle est basée uniquement sur des statistiques, elle ne se rappelle pas nécessairement tout ce qu'elle a vu. C'est simplement une approximation sur les complétions de phrases. C'est une machine qui fait des approximations sur des complétions de phrases. Elle ne fait pas une recherche spécifique, au cas par cas, sur chaque résultat.
Mais alors ça fait peur aux gens, parce qu'ils se disent, bon, est-ce que les machines vont finir par prendre le pouvoir sur nous? Bien, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un risque? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, les spécialistes de la question?
Il y a certainement un danger. Il y a certainement un danger, un risque, pas qu'elles prennent le pouvoir. Hein. Les dangers sont en termes de notre dépendance de plus en plus grande sur des tâches essentielles, des tâches qui consistent à écrire, à rédiger, à raisonner.
Ah ben ça, c'est déjà commencé, hein, parce qu'on est même en dehors de l'intelligence artificielle, la dépendance aux smartphones, la dépendance aux...
Cette dépendance va s'aggraver. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur les possibilités d'automatisation d'un certain nombre de tâches pour l'emploi. Et cette étude remonte avant ChatGPT, elle remonte à 2018 ou 2019. Elle avait montré que selon les tâches répétitives manuelles, les tâches plus intellectuelles, etc., selon les tâches, si on maîtrisait l'interaction langage naturel, on augmentait le pourcentage de ces tâches qui peuvent être confiées à des machines d'au moins 20% ou 30%. Donc, on a des risques liés à l'emploi, peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme. Et on a ces inquiétudes à moyen et long terme qui fait qu'il faut qu'on se reconfigure. Il faut que les formations que l'on offre aux jeunes leur permettent de maîtriser et d'utiliser à bon escient ce type d'instrument. On a des risques de manipulation. La manipulation existe bien avant l'intelligence artificielle. La publicité nous manipule. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et le fait qu'on nous propose telle page ou tel film ou tel menu, etc., c'est déjà le cas. Mais avec les possibilités d'un argumentaire dans notre langue, dans notre façon naturelle de nous exprimer, la manipulation risque d'être plus grande.
Et puis, il y a quand même derrière ces machines, il y a des gens au départ. Il y a des gens qui peuvent, biaiser l'information que la machine, ça existe, ça?
Oui, absolument. D'abord, il y a le biais lié simplement au fait que la machine apprend sur nos textes et nos textes sont biaisés. Mmh. Nos textes ne sont pas neutres. Mmh. D'ailleurs, on peut mesurer les biais à travers l'apprentissage de la machine.
Mmh.
Si on fait apprendre à la machine des relations entre personnes telles que décrit la presse du début du XXe siècle, on va s'apercevoir que les biais sexistes sont beaucoup plus grands que sur les textes du XXIe siècle. Ce qu'elle apprend est déjà biaisé et ensuite, il peut y avoir, et c'est beaucoup plus dangereux, tous les biais liés aux intérêts économiques parce que ces machines machines ont nécessité des investissements colossaux. Ce sont des dizaines et dizaines de milliards qui ont été investis dans ces systèmes. Même le seul ChatGPT, on a dépassé largement les 10 milliards d'euros, de dollars pour son entraînement. Et la motivation derrière ces investissements, c'est bien entendu la motivation du système capitaliste dans lequel nous vivons, qui fait que ces grandes entreprises qu'on appelle les GAFA ont des intérêts et vont préserver leurs intérêts. Et la préservation de leurs intérêts, c'est lié aussi à des possibilités de nous manipuler pour qu'on consomme davantage, pour qu'ils aient plus de publicité, pour que nos données leur servent davantage, etc., etc. Il y a eu aussi des risques que l'on a vus à travers le trucage d'élections.
Ah oui.
Donc ça risque d'être encore plus grand lorsqu'on manipule le langage naturel et qu'on peut nous donner un argumentaire qui est ciblé sur ma personnalité, sur ce à quoi je suis sensible, sur ce que je regarde, sur les éléments, et parce que je fournis des données à longueur de mes interactions avec les réseaux sociaux et les ordinateurs, sur les éléments qui vont me convaincre. Sans parler du fait qu'on a une incursion fondamentale sur la culture humaine à travers la manipulation du langage. Et puis, les relations humaines vont être profondément affectées du fait qu'on va parler et on va interagir les machines.
Alors là, on pense à l'interaction, le problème avec les machines, mais quand même avec de l'humain derrière. Oui. Est-ce que les machines en elles-mêmes peuvent prendre la place des humains ?
Les machines en elles-mêmes vont prendre la place des humains, non pas au sens du pouvoir, mais au sens de moins d'interaction entre nous et plus d'interaction de chacun d'entre nous avec la machine.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça qui va être dangereux. Le risque que je ne vois pas, c'est le risque de prise de pouvoir. Aujourd'hui, on a tendance, parce qu'elle parle notre langage, à les personnalifier, à dire c'est une intelligence artificielle. Il faut garder une certaine distance entre nous et dire qu'il ne s'agit que d'une machine qui a des capacités, des aptitudes remarquables, mais ce n'est qu'une machine. Elle n'a pas de sentiments. Elle donne l'impression qu'elle éprouve des sentiments. Elle n'est pas consciente. Il est faux qu'elle soit consciente. La notion de conscience est très compliquée. On en est très loin dans nos machines aujourd'hui. Elle n'a pas de motivation propre. Elle a les motivations que nous lui donnons. Et donc, le fait de dire qu'elle va prendre le pouvoir, ça signifie qu'elle a des motivations, que le pouvoir sert à quelque chose pour elle. Non, elle est au bénéfice de ceux qui la financent et ceux qui l'utilisent. Je ne crois pas que le risque de prise de pouvoir soit présent aujourd'hui. Je ne le vois nulle part dans les capacités que j'observe, ni la conscience, ni les émotions. Je vois une puissance et des aptitudes des aptitudes d'intelligence et au-delà du langage qui sont relativement surprenantes et qui vont avoir un effet avec un impact fort sur l'humain et sur la civilisation. C'est ce que j'observe aujourd'hui et sur lequel il faut qu'on réfléchisse et sur lequel il faut qu'on mette en place un certain nombre de garde-fous et de régulations sociales pour préserver nos valeurs et nos sociétés.
Eh ben merci beaucoup Malik, je crois que ça clarifie beaucoup les choses pour le public. En fait, les machines ne sont pas sans risque, mais le risque n'est pas qu'elles prennent le pouvoir sur l'humain. Je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir là-dessus et je crois qu'il faut, comme tu dis, il faut travailler à ne pas se laisser dominer.
Oui, tout à fait. C'est un problème de formation, d'information et de diffusion.
Alors c'est peut-être un problème aussi à l'école. Ça fait partie des sujets qu'il faudrait discuter à l'école.
L'école joue un rôle essentiel.
Merci beaucoup Malik pour ces deux passionnantes émissions. Au revoir.